RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Il est là, il est en face de moi, face à son micro, c'est François. Bonjour François.
Comment ça va Nagui?
Ouais, ça va.
Tu as vu, j'ai inversé, hein, maintenant c'est le nouveau gimmick, c'est-à-dire j'inverse. Comment se sont passés tes congés?
Très bien.
Hein Nagui?
Très très bien, et toi?
Alors on n'en parlera pas.
Voilà. Bon.
Je n'ai pas tout à fait des congés. Aujourd'hui nous sommes le 4 avril, j'ai l'honneur de recevoir le chef de corps du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi, le colonel Christophe Stritcher. Comment allez-vous?
Bien écoutez, bonjour messieurs, bonjour à tous vos auditeurs. Écoutez, parfaitement, après un week-end plutôt pluvieux et mouvementé, mais ce doux soleil nous augure une bonne semaine.
Alors, très honoré parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on reçoit le colonel du régiment. La dernière fois, je crois que c'était Jean-Michel Meunier. Donc, ça nous fait plaisir. On va pouvoir parler un petit peu du régiment, un petit peu aussi de vous, en apprendre un petit peu plus. En chaque début d'émission, je fais mon petit rappel de ce qui s'est passé un 4 avril. Donc aujourd'hui, nous sommes le jour de l'abeille. Alors, je rappelle quand même que l'abeille est défendue par Angelina Jolie, hein, puisqu'elle fait des campagnes pour la protection de l'abeille et de l'environnement. On saluera Jean, notre pizzaïolo préféré, Jean Abeille. Alors, en 1297, le pape Boniface VIII cède le royaume de Sardaigne et de Corse au roi d'Aragon. Alors, quand même important de savoir ça. En 1949, il y a la création de l'OTAN. En 1960, il y a l'indépendance du Sénégal. En 1968, il y a l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. En 1924, la création des parfums Chanel.
Et
en 1975, la création, pour tous les geeks, de Microsoft. Les anniversaires. Alors, Marguerite Duras est née un 4 avril. Il y a Michel Fourniret. Alors, c'est un peu l'ascenseur émotionnel pour le coup.
Bernard Campan aussi.
Il y a Daniel Cohn-Bendit, Bernard Campan, ouais, des inconnus.
Gary Moore.
Il y a Abdoulaye Öcalan, le chef du PKK, qui est, je crois, toujours incarcéré en Turquie.
Oui.
Et Robert Downey Jr., Iron Man. Donc, quand même des personnes assez connues. Qui sont morts? Alors là, c'est dans le milieu de l'automobile, c'est pas la bonne journée, puisqu'un 4 avril, il y a Carl Benz, le créateur de Mercedes, et André Michelin.
Et Martin Luther King aussi.
Et oui, j'ai dit au début qu'il avait été assassiné à Memphis.
Ouais.
Memphis, Tennessee. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte anti-mine de l'ONU. C'est la fête nationale du Sénégal. On dit une bonne fête à toutes les Isidore ou Dora. Dora l'exploratrice, pour ceux qui ont des enfants et qui subissent un petit peu le sac à dos et Shipper le renard. Et il y a un dicton, si les 4 premiers jours d'avril sont venteux, il y en aura pour 40 jours. Alors on est content parce qu'on avait 3 jours très costauds. Et finalement, aujourd'hui, ça se calme. Aujourd'hui, je reçois donc le chef de corps du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi, le colonel Christophe Stritcher. Alors, je vais être très honnête, monsieur Stritcher, moi, je n'ai pas fait le service militaire puisque je suis la première génération à avoir fait, à l'époque, c'était la JAPD, la journée d'appel. Donc, je ne suis pas très, très au fait de tout ce qui est du monde militaire, mais on va essayer de faire une émission quand même assez, assez sérieuse. Vous avez donc succédé le 22 juillet 2020 au colonel de la Chapelle. Alors, ce n'est pas votre premier passage, on va y revenir à Calvi. Quelle sensation vous avez ressenti le jour de votre nomination, entre guillemets?
Eh bien, écoutez, alors en fait, effectivement, ce n'est pas mon premier passage, parce que c'est mon quatrième passage. Mon premier passage a commencé en 2003 à Calvi, donc vous voyez, donc il y a presque 19 ans. Et j'ai fait 4 passages successifs, donc de 3 ans, puis 2 ans, 2 ans, et celui-là à nouveau de 2 ans. Donc quelque part, ma nomination, qui était officielle plusieurs mois avant la prise de commandement, n'était pas une surprise, puisqu'en fait, il y a le résultat ou la suite logique. J'aime pas trop le terme aboutissement, parce que malheureusement, il y aura une vie après le passage à Calvi. Les meilleurs moments auront une fin. Mais en tout cas, c'était la suite logique, puisque quand vous arrivez comme jeune lieutenant dans un tel régiment, vous progressez en changeant de grade et donc de responsabilité. Et un jour ou l'autre, si tout se passe bien, on va dire, vous pouvez être amené à le commander. Et donc, c'est à la fois l'aboutissement, donc la conséquence d'efforts et de tant d'années passées au service des légionnaires, mais c'est également une vraie fierté de pouvoir être le chef d'une boutique qui marche remarquablement bien et qui a besoin d'avoir des chefs qui s'en occupent au quotidien.
Alors,
beaucoup de fierté au final, pour résumer tout ceci.
Un attachement, puisqu'au bout du compte, vous avez lié votre destin avec la ville de Calvi, puisqu'en tout, ça fera presque 10 ans.
Oui, 9 ans, tout à fait.
Ça fera presque 10 ans. Donc, je rappelle, je vais faire une petite biographie. Alors, j'ai cherché, hein, j'ai fouillé sur les... Internet est une source incroyable. Vous êtes né à Reims. Dans un mois, jour pour jour, c'est votre anniversaire.
Oui.
Puisque c'est le 4 mai.
Tout à fait.
Voilà. Entrée à Saint-Cyr en 99. En 99, je viens juste d'avoir mon bac. donc, en 2003, première arrivée à Calvi, ouais, en tant que chef de section, en compagnie de combat. Là, à ce moment-là, c'est un choix de votre part ou c'est par rapport au classement? Comment ça se passe?
Alors,
pour ceux qui sont
c'est,
un petit peu de...
C'est un choix, effectivement. En fait, quand vous êtes en école militaire, donc moi j'étais à l'école de Saint-Cyr, qui forme des officiers, à la fin des 3 années d'études, vous avez un classement qui vous permet de choisir une spécialité. Et moi, par exemple, j'ai pris la spécialité infanterie. Donc l'infanterie, c'est le combat à pied. Donc à l'époque, j'ai passé un an de spécialisation à Montpellier. Désormais, cette école a déménagé à Draguignan. Et en fin de cette année de spécialisation, vous avez un nouveau classement. Donc tout est en permanence, vous êtes noté, évalué, jugé. Et ce classement vous permet de choisir un régiment. Alors mieux vous êtes classé, plus ça correspond au régiment de votre choix. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir être plutôt bien classé, ou en tout cas parmi ceux qui pouvaient prétendre à venir servir au 2e REP, qui reste parmi des régiments assez demandés, et on peut comprendre pourquoi. Et donc j'avais le classement suffisant pour venir servir et donc de choisir de venir à Calvi. Donc oui, c'est effectivement un vrai choix.
Alors c'est vrai, peut-être pour les gens qui ne sont pas très au fait, c'est vrai que le deuxième REP est parmi les premiers choix, l'un des plus demandés.
Voilà, alors, parce qu'en fait vous greffez sur le 2e REP beaucoup de spécificités qui attirent les jeunes officiers. Vous avez donc l'aspect parachutiste, donc qui est un peu, on va dire, le côté le plus rustique, le plus engageant, où en fait il faut vraiment s'investir. Et souvent, c'est là, ça fait partie de ces régiments qui ont eu les plus belles missions, en tout cas qui remplissent le mieux les missions qu'on peut leur donner. Vous avez ensuite l'aspect légionnaire. C'est vrai que commander des légionnaires, c'est quelque chose d'un peu mythique, quelque chose aussi d'un peu inconnu. Et quand on choisit un tel régiment, il y a une part de mystère qui fait partie un peu de ces filtres où vous dites j'y vais pas, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais en fait souvent vous êtes attiré par cette envie de l'inconnu, donc c'est le deuxième aspect. Et puis le troisième, c'est le fait de venir, j'ai envie de dire habiter, mais surtout travailler, s'entraîner en Corse. Et ça, c'est quand même un aspect non négligeable. Vous dites qu'ici vous aurez non seulement un cadre de vie extraordinaire, unique, et que souvent on découvre, moi j'ai découvert la Corse lors de mon affectation, mais aussi vous rendez très vite compte que vous avez un cadre d'entraînement qui est remarquable. Entre la mer et la montagne, nos légionnaires sont vraiment gâtés. Ouais, donc ce triptyque parachutiste, légionnaire et corse fait que le régiment est quand même très attractif.
Suite à votre passage en 2003, vous partez au 3e REI où vous commandez le centre d'entraînement
en
forêt équatoriale.
En Guyane, tout à fait. Ouais.
Donc là, changement de décor complet.
Changement de décor, voilà. Et une autre belle expérience, parce que c'était à nouveau un commandement, mais comme vous le disiez, d'un centre d'entraînement. Donc en fait, je préparais les légionnaires, et pas que des légionnaires d'ailleurs, à se préparer à vivre, survivre et combattre en forêt équatoriale, oui, tout à fait. Donc en fait, un milieu très particulier que je comparais souvent à la montagne, un milieu avec ses propres règles. Et quand vous maîtrisez, quand vous connaissez les règles et que vous les respectez, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'est pas si dangereux que ça et vous pouvez y rester pendant des semaines et des semaines.
Alors, on voit souvent des reportages. Alors, c'est souvent sur
la
TNT.
Oui, tout à fait.
Où, d'ailleurs, il y a souvent des captures sur les bêtisiers, sur les trucs, parce qu'il y a des scènes qui sont assez rocambolesques. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs à ce centre d'entraînement? C'est vraiment difficile ou vous les drivez tellement bien que finalement même celui qui est en difficulté arrive à la fin à...
Alors en fait il y a assez peu d'échecs et les rares échecs vont être plutôt des échecs physiques liés à de la casse, parce que malheureusement oui, il peut y avoir des blessures suffisamment lourdes ou parfois même de la casse qui fait que les gens ne peuvent plus suivre le stage. Il n'y a pas d'échec au sens de sélection ou de tri ou de dire lui n'est pas au niveau, parce qu'en fait le but, et ça c'est vraiment propre à l'armée française, c'est qu'on essaye d'être très pédagogique. Et c'est ce qu'on vit au régiment en permanence. On prend les jeunes à leur niveau, et on peut dire que c'était mieux il y a 20 ans où ils étaient plus rustiques, mais peu importe, on les prend tels qu'ils sont. Et notre objectif, c'est de les amener progressivement durant les semaines de stage, de formation, pour atteindre le niveau qu'on estime être celui nécessaire pour remplir les missions qui seront celles de demain. Voilà, donc peut-être qu'on peut prendre plus de temps que nos anciens, où d'emblée, la jeunesse était peut-être plus rustique, plus aguerrie. Eh ben nous, on s'adapte au quotidien avec ce qu'on nous donne et on prend le temps de les amener progressivement jusqu'au niveau souhaité.
En 2008, deuxième passage Calvet.
Oui.
Commandement de la première compagnie de combat.
Tout à fait.
2012, c'est direction école de guerre, super-héros de Toulouse.
Voilà, donc j'ai fait 2 ans à Paris et 2 ans à Toulouse. Ouais, tout à fait.
2 ans à Toulouse pour finalement revenir en 2016. Alors là, c'est un souvenir particulier pour moi parce qu'à l'époque, je m'occupais des logements.
Voilà. Mais c'est pour ça que quand vous disiez que vous ne connaissiez pas très bien l'armée, vous connaissez quand même une partie,
Les familles. Les logements, voilà. Voilà,
ouais, mais ça fait partie de la vie de nos familles.
Je me rappelle du branchement de l'eau à la villa, la villa en haut, près du fort. Hein. C'était rocambolesque pour trouver le compteur. Ouais. Parce que le compteur se trouve à 30 mètres de la maison.
En contrebas, tout à fait.
Assez incroyable. Et après un interlude de 2 ans au bureau plan de l'état-major de l'armée de l'air, alors là je ne sais pas du tout de quoi on parle.
Alors si je commence à rentrer dans les détails, ça va être compliqué. Le bureau plan, en fait, j'ai fait effectivement entre mes 2 derniers passages à Calvi, j'ai fait 2 ans à Paris dans les états-majors. Donc là, c'était l'état-major de l'armée de terre. Et quand vous parlez du bureau plan, c'est le bureau en fait qui prépare l'avenir de l'armée de terre, donc à l'horizon, on va dire, de 20 à 25 ans, et en fait qui équipera l'armée de terre avec de nouveaux matériels. Voilà, donc en fait, c'est de quoi a-t-on besoin, est-ce qu'on est en mesure de se les financer, et de tout ça corrélé avec le quotidien de nos régiments.
Alors d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous abordez, parce que sur le financement, ça veut dire donc le matériel potentiel que les militaires vont avoir.
Oui.
Aujourd'hui, il y a un contexte qui est international, qui est particulier. Moi, j'avais vu un schéma où j'avais trouvé le niveau de la France très très bas par rapport à certains pays qui étaient assez surprenants. La Corée du Sud, qui avait un niveau en termes de personnes engagées. Alors là, je crois que c'est obligatoire hein, en Corée du Sud. Je crois qu'il y a un passage de 2 ans.
C'est sûr qu'on ne peut pas comparer avec des pays qui ont encore le service militaire obligatoire. Mais pour revenir sur ce sujet, donc en fait, on est actuellement sur une loi de programmation militaire qui court jusqu'en 2025. Qui a une vocation justement à restaurer le niveau d'équipement de nos armées. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien, notamment à travers le renouvellement de matériel ancien qui
étaient
un petit peu obsolètes, tout à fait, et qui maintenant sont vraiment bien neufs, puisqu'on a des matériels, que ce soit de l'armement ou des véhicules, qui arrivent. Donc on peut dire qu'on est plutôt sur une vague très positive, mais parce qu'on en avait besoin.
Ouais.
Voilà. Donc à un moment, on était un peu au pied du mur. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, c'est toujours pareil. C'est quand on se compare d'un pays à l'autre, qu'est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare le montant financier? Est-ce qu'on compare le pourcentage du PIB? Et c'est toujours un peu trompeur de se comparer en pourcentage du PIB, parce que si le PIB de la France baisse, le pourcentage pourrait augmenter. Mais donc, il vaut mieux parler en termes de volume financier. Et puis surtout, in fine, je pense, c'est de capacité pure. Voilà.
Voilà.
A-t-on les moyens pour continuer à s'entraîner et pour remplir nos missions?
On voit ce qu'avait noté l'OTAN, plus ou moins, c'est que sur la sortie de l'armée russe, entre guillemets, les gens ne savaient pas, puisque les informations sont plus ou moins tronquées, et attendaient de voir plus ou moins le matériel, qu'est-ce qu'ils avaient et tout, puisqu'ils n'avaient pas été en opération militaire depuis la Tchétchénie. Et finalement, ils ont l'air d'en revenir un petit peu. Finalement, le niveau de l'armée russe qu'on pensait très fort paraît moindre, en tout cas, par rapport à ce qui est montré sur le terrain.
En fait, on constate, mais bon, je ne rentrerai pas plus dans le détail, puisque j'observe ça comme vous un peu de loin. Mais on observe que la plupart des pays, des armées de pays dites modernes, ou en tout cas bien structurés, sont toutes avec un niveau assez faible. Et en France, mais ça c'est officiel, hein, on est mieux taillé pour ce qu'on appelle du corps expéditionnaire, c'est-à-dire toutes les opérations qu'on a menées en Afrique, où là on avait le bon niveau, les bons équipements. Mais pour des opérations un peu plus majeures, qui sont celles qu'on voit à l'est de l'Europe, ben on voit que peu de pays auraient de quoi durer pendant des jours, des semaines et des mois. Et la France ne s'en cache pas, puisque justement la loi de programmation militaire actuelle a pour vocation de remonter nos stocks, nos effectifs. Et je pense que ça sera un des premiers rendez-vous du prochain ou de la prochaine président-présidente. Ce sera de prendre en compte ce contexte international et de prendre de vraies décisions.
Est-ce qu'on
continue avec un niveau qui est plutôt faible au sens mesuré, ou est-ce qu'on veut, on décide de remonter les effectifs, les stocks, pour se préparer pour une hypothèse qu'on a dans l'armée, on appelle ça l'hypothèse d'engagement majeur, c'est-à-dire un conflit tel que ceux qu'on voit actuellement, où il faut durer pendant des semaines et des mois.
Est-ce que le fait d'être une puissance nucléaire aussi fait pas baisser justement les dotations en dessous?
Tout est affaire de choix. Voilà, mais ça, là, après, on rentre dans un domaine qui est plus politique que militaire, parce que le militaire restera aux ordres du politique. En fait, c'est aux politiques de faire des choix. Est-ce qu'on, évidemment, on restera une puissance nucléaire, et vous notez bien que ça a un coût non négligeable, mais est-ce qu'on peut se contenter d'avoir du nucléaire? Non, parce que le nucléaire sans le conventionnel, quelque part, ne sert à rien. Voilà, donc la France a fait le choix, ce qu'on appelle d'un spectre complet, vous voyez, d'un modèle d'armée complète. Où, en fait, on n'a pas fait de renoncement capacitaire. Désormais, c'est est-ce qu'on souhaite remonter ce niveau et donc avoir des équipements plus volumineux dans tous les domaines. Ça, c'est un choix vraiment, vraiment politique.
Alors d'ailleurs, certains candidats parlent, c'est un petit peu à la mode, du service militaire qui pourrait revenir, une nouvelle formule de service militaire possible. Vous en pensez quoi ?
Alors moi, je pense que avec les moyens dont on dispose, je ne vois pas comment on arriverait à revenir à ce que vous n'avez pas connu, ce que je n'ai pas connu non plus, parce que je fais partie de la première génération de JAPD. On voit bien qu'on n'en a pas les moyens. On n'a pas de quoi loger ou encadrer tout ça. Le SNU tend à y pallier. Mais vous voyez, même le SNU, pour l'instant, n'a pas vraiment débouché parce qu'il y a toujours un peu ce plafond de verre de comment est-ce qu'on motive la jeunesse. Est-ce que ça doit être du volontariat? Est-ce que c'est obligatoire? Et après, comment est-ce qu'on les encadre et qu'est-ce qu'on leur fait faire? Moi, ce que je constate, c'est que les armées sont un petit peu partie prenante sur ce domaine-là, mais que nous, on continue à contribuer, parce qu'on n'a jamais arrêté, à travers notre réserve. Et voilà, je tiens à le faire savoir aux auditeurs, c'est que le régiment a certes des légionnaires, donc des engagés venant de divers pays, mais on a également une composante de réservistes dans laquelle nous accueillons des jeunes de Corse ou du continent qui viennent se former chez nous et qui viennent régulièrement servir sous l'uniforme. Et je pense qu'actuellement, ça reste un excellent moyen pour tous ceux qui souhaiteraient découvrir ou peut-être qui regrettent le service militaire. Je ne suis pas en mesure de...
Bah d'ailleurs, la JAPD, la visite médicale avant, elle se passait au régiment.
Oui, tout à fait. Oui, alors ça se fait toujours. Malheureusement, avec le Covid, ça a un peu pris du retard. Mais je pense que voilà, les jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient découvrir ou qui peut-être ou dont les parents regrettent le service militaire, nous on leur propose de découvrir l'armée à travers un équivalent de service, mais qui peut durer d'ailleurs sur 10 ou 15 ans, qui s'appelle la réserve militaire.
Alors, le 22 juillet 2020, prise du poste au régiment, vous n'avez pas de chance, on est en plein Covid. Donc tout est un petit peu freiné. Est-ce que vous regrettez ces conditions-là? Est-ce que c'est un petit regret parce que vous êtes bientôt à 6 mois du départ? On va pas,
c'est pas un, ça, ça, c'est pas un non, secret. Non, c'est de... pas un scoop. Je suis même à moins de 6 mois. Je suis plutôt à 3 mois et demi.
Voilà. Ouais. Est-ce que ce sera un petit regret de votre passage, de votre ultime passage?
Oui, évidemment. Mais je veux pas donner l'impression de pleurnicher ou de me plaindre parce qu'en fait, je pense que ce drame, quoi, ces années qu'on a vécues, ont touché tout le monde. Et tous les calvés ont été touchés. Et je pense qu'il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup plus souffert que nous. Certains ont pu bénéficier d'aide et j'espère que ça leur a permis de s'en sortir. Quelque part, pour nous, c'est ce que j'ai constaté la première année, la vie a continué, la vie pour les hommes, c'est-à-dire l'entraînement a continué, la vie entre nous a continué. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a été sujet d'incompréhension au départ, où certaines familles ou certaines personnes extérieures disaient « mais eux continuent, ils ne sont pas confinés ». On ne pouvait pas être confinés parce qu'en fait, et ça je pense que c'est tout à fait compréhensible, la sécurité n'attend pas et quand vous avez des attentats sur le territoire national où je déploie des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle, d'un côté, quand vous avez les opérations en Afrique, l'opération Barkhane, où pareil j'envoie des légionnaires se battre là-bas, vous devez bien qu'on doit continuer à s'entraîner. Donc malheureusement, on faisait partie, ou heureusement, je ne sais pas, on faisait partie des professions qui ne pouvaient pas vivre sous cocon et qui ne pouvaient pas vivre chez eux en attendant que ça passe.
Oui, certains ont pris ça comme un privilège, tandis que non.
Alors, je pense que le terme privilège n'est pas bon, en fait. Et je l'avais expliqué aux autorités, on avait essayé de communiquer dessus. Oui, la vie doit continuer. Donc oui, nous devons continuer à nous entraîner. Alors on essayait de ne pas narguer la population en pas venant nous entraîner sous leurs fenêtres. Mais je pense que tout le monde peut comprendre que pour continuer à être projeté, il faut continuer à s'entraîner. Voilà, donc ça, c'était pour remettre dans le contexte. Après, oui, évidemment, je regrette comme tout le monde cette situation parce que même si la vie entre les hommes est restée à peu près normale avec toutes les précautions qu'il a fallu prendre, les isolements qu'il a fallu prendre, les tests à répétition qu'on a fait, et je pense qu'on a été, en tout cas, on a bien respecté les différents protocoles, là où ça a été beaucoup plus compliqué, c'était la vie sociale entre nous Et quand je dis entre nous, c'est nous, nos familles, puisque les familles étaient de fait un petit peu écartées. C'est nous, nos anciens. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'anciens du régiment qui sont présents sur la Balagne. Et nous, avec les Calvés, parce qu'en fait, de fait, il y a eu moins de contacts, moins de possibilités de venir dans le régiment. Et donc, ça sera mon grand regret, c'est que pendant plus d'un an et demi, on a vécu vraiment avec un rythme différent et qu'on commence tout juste à reprendre. Puisque ça s'était un petit peu calmé l'été dernier, et puis les vagues successives ont fait que, quand il y avait une fenêtre d'un mois, on se disait « ça reprend, non, ça reprend pas, il faut remettre un peu tout ça sous cloche ». Et c'est pour ça que j'espère que depuis 15 jours, là, on peut vivre à peu près
normalement, oui.
Normalement, même si je reste prudent, parce que les signaux ne sont pas toujours très très bons. Mais en tout cas, c'est ce que je dis. Voilà, profitons de ces moments pour nous retrouver. Et c'est l'occasion également de venir chez vous aujourd'hui. Je vous en remercie. Mais c'est pour ça aussi que je donne d'emblée rendez-vous à tous vos auditeurs pour venir chez nous le 30 avril prochain, donc samedi 30 avril, pour la fête de Cameroun. Mais peut-être qu'on l'abordera un petit peu plus loin.
Exactement. Alors, sur le sujet de vos passages successifs à Calvi. Ça, c'est des nominations. Est-ce que vous avez un impact dessus ? C'est-à-dire que vous pouvez demander à revenir ou pas ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous avez fait 4 passages, est-ce que ça aurait pu ne pas se passer comme ça ?
Exactement. En fait, quand on est régulièrement muté, et alors, moi, j'aime le dire, il n'y a pas à se vanter. Mais
c'est une vie d'intermittent, oui.
Exactement. Ça fait 16 ans que je déménage tous les 2 ans. Voilà, donc il y a 15 ans, je trouvais ça rigolo.
Là, c'est le travail de votre épouse qui...
Exactement, voilà. Un été sans carton, un été avec carton, comme elle dit. Donc effectivement, j'aurais pu très bien demander à aller ailleurs parce que je ne me serais pas plu ici ou parce que j'aurais aimé me stabiliser dans un autre endroit. Bon, je vous avoue que quand on a goûté à la Corse et au deuxième rep, on a quand même plutôt envie d'y revenir. Et on est prêt à faire quelques sacrifices. Quand je dis « on », c'est la famille, hein, donc c'est l'épouse et les enfants. Parce qu'en fait, dans la balance difficulté face à joie, joie sur le moment et joie qu'on gardera en mémoire pendant très longtemps, on n'a pas hésité un seul instant. Donc oui, on est très content d'avoir demandé et que ça puisse se passer comme ceci.
Alors, je rappelle aussi que vous êtes délégué militaire départemental en Haute-Corse. Alors, ça, les gens ne le savent peut-être pas, c'est important de le savoir. En quoi ça consiste ?
Alors, dans tous les départements en Corse, donc, que ce soit à Bastia ou Ajaccio, et dans tous les départements du continent et outre-mer, vous avez ce qu'on appelle un DMD, donc effectivement un délégué militaire départemental. Pour faire très simple, c'est le conseiller du préfet en tout ce qui concerne l'emploi des forces armées dans son département. Alors, ça pourrait être aussi bien pour des cas de force majeure, c'est-à-dire d'envahissement, d'invasion, du pays,
hein,
où il faut défendre le territoire. De manière plus courante, ça va être dans l'emploi, alors sur le continent, pour tout ce qui concerne la mission Sentinelle. Et ici, en Haute-Corse, ça va être plutôt l'emploi des forces armées dans le cadre de la mission de lutte contre les feux de forêt. Donc en été, une mission qui s'appelle Héphaïstos, et dans laquelle depuis quasiment plus de 20 ans, des militaires, notamment de la réserve, sont employés pour protéger, voire intervenir contre les feux de forêt. Mais vous avez également l'assistance à la population en cas d'incident de force majeure, hein, lié aux conditions météorologiques. Voilà, donc c'est toute cette partie-là et un gros volet également de rayonnement. Alors j'ai la chance dans toutes ces casquettes que je peux avoir de ne pas être tout seul. Et j'ai un adjoint qui est présent à l'année à Borgo, donc qui lui est plus proche du préfet et qui peut traiter en direct tous les cas de force majeure. Je pense également au moment de pollution maritime. On intervient malheureusement régulièrement dans ces cas-là. Et donc, c'est lui qui est l'interlocuteur du préfet pour lui dire voilà quels sont les moyens dont on dispose immédiatement. Alors, on va penser au deuxième REP, mais en Haute-Corse, vous avez également du monde disponible à la base aérienne de Soenzara et qui a des moyens type hélicoptère qui permettent d'aller localiser, voire intervenir pour aller rechercher même des personnes en perdition, des plaisanciers avec leur bateau. Ouais, donc ça, c'est toute une phase cachée qu'on ne voit assez peu, mais qui passe par des réquisitions préfectorales ou des demandes de concours de la part du préfet. Et mon adjoint, qui est son interlocuteur privilégié, est capable de le conseiller sur ces moyens, sont-ils disponibles ou non.
Alors, dans le cas de votre carrière, il y a eu des opérations militaires, la Côte d'Ivoire, l'Irak, le Mali. C'est un petit peu la finalité du travail.
C'est la finalité.
C'est la finalité du travail. Il y a un risque. Alors bien sûr, il est quantifiable, évaluable, mais il y est. On y va à la fleur au fusil ou on est assez pragmatique et il faut garder son sang-froid.
Alors, on n'y va certainement pas la faire refuser. Certainement pas. Non, mais comme vous dites très justement, on fait un métier à risque. Alors, il y a beaucoup de métiers qui sont à risque. Hein. Les pompiers sont un métier éminemment à risque et d'ailleurs plus souvent confrontés que nous. On va dire, nous, on fait un métier à risque parce qu'en fait, on ne sait pas trop dans quelles conditions on va s'engager. Et puis, les réactions sont parfois imprévisibles. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'entraîne beaucoup. Et le militaire, contrairement aux pompiers, le militaire va s'entraîner plus des trois quarts de sa vie pour s'engager un petit quart dans des situations où il espère avoir été préparé et donc minimiser le risque. Mais il y a toujours une part de risque, évidemment. Donc, beaucoup d'entraînement, beaucoup de relations de confiance entre les chefs et leurs subordonnés pour que les uns et les autres se connaissent et que quand il va falloir agir face à un ennemi qui, lui, est souvent très déterminé, eh bien, il n'y ait pas le moindre doute et que tout le monde agisse comme il s'est entraîné. Voilà, la grosse différence, si je vais terminer là-dessus, c'est que le militaire, non seulement est confronté à un risque, donc il peut perdre sa vie, et ça fait partie pleinement de notre métier, mais c'est un métier aussi où on peut être amené à donner la mort. Et ça, c'est pas anodin. Et au-delà de l'entraînement, de la volonté d'en découdre, c'est une vraie
psychologie.
Exactement, c'est une vraie réflexion de se dire que c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire au sens étymologique du mot, où on sort de l'entendement. Et donc, moi, j'encourage mes chefs et on en parle de temps en temps avec les cadres pour qu'ils puissent réfléchir à ce que c'est que l'engagement du combat, l'engagement du feu, où on peut non seulement recevoir la mort, mais également la donner. Voilà, donc, il y a une prise de risque qui ne doit jamais être inconsidérée, c'est-à-dire qu'on n'y va ni la fleur au fusil, c'est-à-dire de manière détendue, où le verdict serait sans appel, mais on n'y va pas non plus de manière, j'allais dire, vous savez, va-t'en guerre. Mmh. C'est-à-dire l'envie de... On n'est pas des soifards qui cherchons à aller chercher la mort coûte que coûte. Non, non. Toute opération est mesurée, préparée, le mieux préparée possible pour éliminer l'inconnu. Mais une fois que vous avez éliminé cet inconnu, il y a toujours une part de risque parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face, vous avez un ennemi qui, lui, a la même volonté que vous d'en découdre. Et donc, c'est souvent ce choc des volontés qui fait que le mieux préparé peut le mieux s'en sortir.
Alors, justement, puisque vous en avez parlé, l'aspect familial, vous êtes père de 6 enfants.
Oui.
Comment on arrive à conjuguer un petit peu les deux, à gérer quand on part aussi cet aspect psychologique? C'est-à-dire, faut avoir des femmes très fortes. Mmh. Je salue votre épouse qui est très impliquée dans la vie associative. Notamment, on parlera un petit peu de l'Ukraine. Elle m'a beaucoup aidé. Est-ce que il y a le rythme de vie, c'est les mutations, il y a les départs sur opération. Quand vous êtes sur le théâtre d'opération, ça, c'est des choses qui peuvent venir perturber aussi.
Ah, mais c'est perturbant, mais même avant le départ, parce qu'en fait, comme vous le dites, c'est une vie, la vie de militaire au sens général, hein, c'est une vie qui est faite de déplacements, de déménagements, d'absence, parfois d'angoisse, parce que actuellement le régiment est d'alerte, donc ça veut dire que du jour au lendemain, on peut être amené à être déployé pour plusieurs semaines, plusieurs mois, sur un terrain dont j'ignore actuellement l'existence, par définition. Voilà, donc effectivement, le premier point fort de nos familles, ce sont nos épouses. Et un peu comme vous le disiez, moi, plus j'avance dans la carrière et plus je suis admiratif de la mienne, évidemment, mais de nos épouses au sens large, parce qu'on leur demande beaucoup. J'espère qu'on leur rend le plus possible, en tout cas qu'on essaye d'être compréhensif avec elles. Alors la grande force qu'a le régiment, et je pense que c'est lié à cette insularité et au fait que nos familles habitent très proches les unes des autres, mais vraiment proches au sens physique et au sens humain, c'est qu'en fait, avant que le mari soit déployé, nos épouses sont très liées entre elles. Elles se rencontrent très facilement, elles se côtoient très facilement, et donc quelque part, elles ont l'habitude de vivre entre elles, même quand on est là. Alors, il ne faut pas voir malice quand je dis ça, mais en fait, je vois ça comme une force, et ce qui fait que quand on est déployé, quelque part, elles n'ont pas à s'inventer une nouvelle vie. Elles ne font que perdurer cette habitude qu'elles ont de vivre entre elles. Et donc, c'est un vrai réconfortant pour les maris de pouvoir partir serein. Alors, évidemment, ça n'empêche pas les difficultés, mais comme je dis souvent, nous, on ne se cache pas les yeux, on ne se voile pas la face aux difficultés, on a l'habitude de les surmonter ensemble. Et c'est là où la force, cette cohésion, la cohésion qu'ont les maris, se retrouve également chez les épouses. Il y a des difficultés, on pourra parler de l'Ukraine parce que c'est une belle difficulté, mais on voit que l'entraide permet d'aplanir les difficultés et en tout cas d'aller toujours de l'avant.
Alors, justement, bon, on va parler vite fait. Non, on va parler de l'Ukraine. Moi, à titre personnel, avec la confrérie Saint-Antoine-Abbé, qui est juste à côté, hein, l'oratoire Saint-Antoine, et Calvi, la solidarité Calvi-Ukraine, c'est vrai que je tenais, là, officiellement, à remercier non seulement les légionnaires de la communauté ukrainienne, et ont été très impliqués, très présents, ils le sont toujours, d'autres qui sont venus par solidarité aussi. Est-ce que votre épouse, qui a été présente aussi, est-ce que dans une gestion de groupe, un conflit comme ça, c'est compliqué ? Parce que la Légion, par essence, c'est plusieurs nationalités. Donc vous avez des Ukrainiens, vous avez des Russes, des Biélorusses, des Moldaves. Est-ce que vous, dans votre commandement, vous êtes obligé de le prendre en considération et à un moment donné, de mettre un petit peu le holà sur peut-être, parce qu'à un moment donné, il y a aussi des communautés à gérer, il y a aussi des ressentiments personnels. Est-ce que ça rentre en ligne de mire ?
Alors, c'est un sujet passionnant et évidemment d'actualité, et à mon avis, qui va le rester encore pour plusieurs mois. Alors, comme vous, je veux remercier tous les Calvés et tous les Balanins qui se sont vraiment impliqués. Et on voit que cet élan de solidarité nationale est également très prégnant ici, et ce, depuis le début. Voilà, donc un grand merci à tous. Alors oui, c'est un sujet qui est très important parce que la Légion, c'est un creuset où les nationalités se fondent. La Légion, c'est plus de 140 nationalités. Alors même si au deuxième rep, on en a un petit peu moins de 100, mais avec des contingents plus ou moins importants. Les Ukrainiens sur un régiment, donc on est 1250 au régiment, les Ukrainiens, c'est une centaine de légionnaires.
Oui, donc c'est un gros contingent.
C'est le troisième contingent le plus important du régiment. Et au régiment, il y a plus d'Ukrainiens que de Russes ou de Biélorusses. Donc c'est non négligeable. Alors, je tiens à vous rassurer, l'entente entre eux et entre les familles se passe très bien. Voilà, donc le conflit ne se reproduit pas au sein du régiment, et c'est là toute la force de cet amalgame qui est faite très tôt à la Légion. En fait, quand ils sont à l'instruction, leurs 4 premiers mois, c'est vraiment ce qu'on leur apprend. Et comme le dit le code d'honneur du légionnaire, chaque légionnaire est ton frère d'âme, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. On est en plein dedans. Voilà, donc la cohésion entre les légionnaires se passe remarquablement bien, et la cohésion entre les familles également. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'entraide, d'ailleurs, se passe, on va dire, transnationalité. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais effectivement, c'est quelque chose à gérer, parce que on a ceux qui sont... J'ai du monde, hein, qui est bloqué actuellement en Ukraine parce qu'ils s'y trouvaient de manière autorisée avant le début du conflit, et ceux-là n'arrivent pas actuellement à rentrer. Vous avez, et ça, c'est pas un secret de... Quoi, c'est un secret de polichinelle, hein, on a des légionnaires qui sont partis là-bas pour... Qui ont déserté nos rangs pour rejoindre qui leur famille, qui des amis qui se battent là-bas. Alors, ça n'a pas été encouragé, ça n'a pas été autorisé. Donc, en fait, de fait, ils sont déclarés déserteurs. Mmh. Et je pense que dans tous les cas, on peut, à défaut de juger, on peut les comprendre. Parce que, comme le dit le général qui commande les légions étrangères, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà, donc, ce n'était pas partie de ce qui était autorisé. On les a plutôt encouragés à rester parmi nous parce qu'on estime que c'est le meilleur moyen pour pouvoir aider leur famille. On a donné beaucoup de facilités pour que ceux qui avaient besoin de se rendre en Pologne ou dans les pays voisins puissent y aller pour récupérer la famille.
Proches.
Voilà, exactement. Donc moi, j'en ai pas mal qui y sont allés et qui ont placé leur famille en Moldavie, en Pologne, en Slovaquie. Voilà, parce que souvent, ces familles n'ont qu'un espoir, c'est de retourner le plus vite possible chez elles. Et puis, on en a quelques-unes. J'ai un petit peu moins de 10 familles qui sont venues jusqu'en Corse. Alors, soit de manière anticipée, parce que c'était une venue qui était programmée. Et là, il a fallu mettre la main à la pâte pour les accueillir dans des conditions décentes, parce que les maris, pour certains, sont actuellement en mission. Donc là, il y a une vraie cohésion qui a œuvré. Et puis, j'en ai quelques-uns qui ont fait venir leur famille, alors frères, sœurs, belles-mères, belles-sœurs, et qui sont hébergés actuellement, donc chez eux ou chez des amis. Et certains ont d'ailleurs pu scolariser leurs enfants dans les écoles de Kavi. Donc la solidarité joue. On a beaucoup de cas, ce ne sont d'ailleurs que des cas individuels, et on ne fait pas de gestion de masse dans ces cas-là. On a du langage de masse pour dire, voilà, ne quittez pas nos rangs, le meilleur moyen pour aider vos familles, c'est de rester chez nous. Mais ensuite, c'est de la gestion très individuelle au cas par cas, parce que chacun réclame une attention particulière pour que quand la famille est bien installée, eh bien, le mari est plus serein,
oui,
et peut continuer à servir dans de bonnes conditions. Bah, donc, je dirais qu'il n'y a pas de situation dramatique. Il y a des situations très dures, hein, parce que moi, j'ai des légionnaires qui ont tout perdu, matériellement parlant. Ils se projetaient, ils préparaient leur avenir en Ukraine, et certains ont tout perdu matériellement. Et donc, leur projet se retrouve mis à bas. Et donc, ils sont bien contents d'être encore parmi nous pour pouvoir se reconstruire.
Alors, on va aborder une petite partie de l'émission. C'est les questions qui fâchent. Oh, elles sont...
Il n'y a pas de questions qui fâchent.
On met une petite musique d'ambiance. Il y a eu, sur les deux dernières années, deux petites polémiques, surtout sur les journaux numériques. La première, alors c'était pas vous, c'était Monsieur de la Chapelle. C'était concernant le Cameroun 2020, en plein premier confinement, où des épouses de légionnaires avaient dit qu'elles n'avaient pas de nouvelles de leur mari, ils étaient confinés, qu'ils n'avaient pas le droit d'appeler. Il y a eu les passages, le Cameroun qui avait eu lieu seulement avec les maris, où il y avait un petit peu la population qui avait grincé des dents puisque tout le monde était bloqué à la maison. Il y a eu une incompréhension. Et cet article qui avait fait un peu polémique. Donc à l'époque, votre prédécesseur avait essayé avait communiqué là-dessus en disant que tout avait été fait dans les règles de l'art. Quand il arrive quelque chose comme ça, et puis après... l'année dernière, il y avait eu un autre article concernant, alors je crois que c'était la deuxième vague, sur le fait que vos services ne donnaient pas les informations sur les cas contacts, sur les cas Covid au sein du régiment, que potentiellement le début de la deuxième vague à Calvi venait probablement de certains légionnaires. Et alors là, c'est des choses extérieures à gérer. Est-ce que pour vous, en tant que chef de corps, quand il vous arrive ça, vous dites, ah, j'ai pas besoin de ça non plus.
Alors, c'est exactement ça. On se dit ça. Alors, pour remettre dans le contexte de la première séquence dans les journaux, effectivement, on était au tout début, donc premier confinement. C'était un peu l'inconnu. On ne savait pas trop où on allait, combien de temps ça allait durer. Et je pense que là, il y avait une sorte d'incompréhension, peut-être en interne régimentaire et puis en plus local. Alors, on a dit que c'était des épouses, moi j'en ai pas eu la confirmation, donc je me permettrai pas de stigmatiser les épouses. En tout cas, il avait été rapporté que, un peu comme je disais tout à l'heure, nous il a fallu continuer à nous entraîner et il a fallu continuer à vivre aussi. Et à partir du moment où on se confinait pas dans les maisons, mais en partie au quartier, et que Cameroun reste la plus grande fête de la Légion étrangère, donc il fallait quand même marquer cette fête d'une manière ou d'une autre. Et à partir du moment où vous côtoyez toute la journée, vous côtoyez une fois de plus pour célébrer un anniversaire tel que Cameroun, bon, je pense que c'était peut-être plus de l'incompréhension plus qu'une erreur d'appréciation dans les festivités. Bon, voilà. Mais comme je n'étais pas là, je préfère de ne pas me concentrer là-dessus. Moi, je peux très bien vous parler de la deuxième vague parce que là, j'étais
voilà.
Là. Celle-là, je la connais presque par cœur. Effectivement, quand ça vous tombe dessus, vous vous dites bon, « on n'avait pas besoin de ça ». Mais après, c'est peut-être révélateur du fait qu'on a besoin de communiquer et que vu d'extérieur, on reste un peu mystérieux. Alors qu'en fait,
il y a toujours ce fantasme de la grande muette.
Alors qu'en fait, on n'a rien à cacher. Et on a tellement rien à cacher que tous nos cas parce que pour l'instant, on n'en a plus, mais je touche du bois. Tous nos cas étaient déclarés à l'ARS. Donc en fait, l'ARS connaissait par cœur notre situation. Alors peut-être que les personnes qui disaient on n'est pas au courant, bah, c'est tout simplement parce qu'elles n'avaient pas à en savoir. Mais rien n'a jamais été caché. Ce que j'expliquais d'ailleurs à votre confrère de Cours ce matin l'an dernier, c'est nous on avait effectivement une compagnie qui était rentrée d'Angleterre à ce moment-là. Et vous vous rappelez, il y a le variant anglais. Évidemment, nous tout le monde avait été testé concernant tous les types de variants, dont celui anglais. On avait eu zéro cas. Donc j'ai fait souvenir qu'effectivement les chiffres étaient moins bons en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. Ils étaient moins bons en Baliane au sein de la Haute-Corse. Et donc qui dit Baliane disait forcément le deuxième rêve. Bon, moi je vais pas épiloguer ni jeter l'anathème sur qui que ce soit. Ce que j'expliquais à l'époque. Et j'espère que le message a été bien compris. En tout cas, les autorités locales, tant le maire de Calvi, qui à l'époque, d'ailleurs, a été notre premier défenseur, et je l'en remercie, mais également le sous-préfet et le préfet Abbassia, étaient bien conscients qu'on appliquait stricto sensu les règles qui étaient de se tester. On était testés systématiquement, et ça, je peux m'en porter garant, et que systématiquement, tous ceux qui étaient déclarés positifs étaient isolés Donc il n'y a jamais eu d'amateurisme dans... Non, non. Qu'il y a eu des pics avec plus de cas chez nous qu'à certains moments. Bah, oui, parce que comme partout, en fait, nous aussi, on y était confrontés. On allait sur le continent remplir des missions, on allait... on côtoie nos familles, on côtoie nos amis calvés au quotidien. Mais bon, je pense qu'à ce moment-là, bon, y avait du Covid au régiment, mais comme il y en avait à Calvi.
Oui.
Ni plus ni moins.
Alors, est-ce que cet élan-là, il est dû... Alors, c'est vrai qu'on en avait un petit peu abordé en privé. Il est dû au fait où peut-être que sur les dernières années, les deux communautés... Il y a un petit fossé qui s'est créé, peut-être, entre la communauté locale, entre guillemets, je dirais, et celle du régiment. Est-ce que c'est peut-être inhérent à ça, finalement, que les gens se fréquentant peut-être un petit peu moins, peut-être quand il arrive des événements extraordinaires, donc une pandémie, c'est quand même pas rien, est-ce qu'à ce moment-là, ça peut raviver des incompréhensions, des...
Oui, c'est possible. C'est possible. Et je pense qu'effectivement, on se rend compte qu'on a besoin de communiquer dans tous les cas. En tout cas, on n'a rien à perdre à communiquer.
Non.
Et on n'a rien à cacher. Au mieux, ça permet de faire comprendre. Au pire, on n'ira pas plus loin. Et ce qui joue parfois en notre faveur, c'est que l'actualité chasse l'actualité. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour se défausser, mais on voit que les crises chassent les crises. Non, plus sérieusement... je pense qu'effectivement, bon, on a l'évolution de la société où on peut dire chacun vit plus de son côté. Bon, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Le Covid ne nous a pas aidés, même si on voit qu'on continue à se fréquenter, ne serait-ce que par l'école, parce que nos enfants sont à l'école, donc ils côtoient naturellement la jeunesse calvaise, quelles que soient ses origines. Et je crois que personne ne s'en plaint d'ailleurs. J'espère vraiment que d'ouvrir nos portes à nouveau le 30 avril prochain et le 1er mai, donc ce sera un samedi et dimanche, c'est pendant les vacances scolaires, donc il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas venir. Et j'espère que la météo sera en rendez-vous. Donc ça peut y contribuer. En fait, tout doit pouvoir y contribuer. Et je vois que l'élan de solidarité sur l'Ukraine montre qu'on n'est pas juxtaposé, mais on est quand même imbriqué. Et moi, je suis prêt à encourager toutes les bonnes actions des deux côtés pour qu'on puisse manifester cette cohabitation. En fait, on est vraiment... On a, et ça, c'est le maire de Calvi qui dit souvent...
Ça fait 55 ans maintenant. Hein.
On a un destin commun. Mmh. Et Calvi, je pense, est fier de son régiment. Et moi, je peux vous garantir, et c'est le message que je porte, c'est que le 2e REP, qui n'est pas né à Calvi, mais qui y est depuis 55 ans, 1957, le 2e REP, en dehors de Calvi, ne serait plus tout à fait le même. Donc on a tout intérêt à ce qu'on reprenne tout simplement les bonnes habitudes. Mais depuis 2 ans, c'est vrai que c'est compliqué parce que nos portes sont plutôt fermées, parce que les cérémonies du 8 mai, 11 novembre et 14 juillet se sont faites très souvent en petit comité. Voilà, et tout ça, c'est sûr que ça nous rend moins visibles. Et donc ça ne contribue pas à ce que les gens nous voient sous une bonne image. Ou en tout cas, ça peut entretenir un climat de suspicion quand il y a des moments un peu plus durs. Bon, ce que je vois, c'est qu'on a quand même été sollicité, même dans ces cas Covid. Vous savez, on a quand même j'ai des légionnaires qui ont renforcé, qui ont apporté une modeste contribution, une très modeste contribution, mais qui ont apporté un peu leur pierre à l'édifice dans les campagnes de vaccination à l'antenne médicale. Voilà, on continue à faire ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose. Et je milite pour qu'on ne soit pas coupé de la vie locale.
Alors, je vais vous reprendre. C'est l'hôpital de Calvi, parce que mon épouse y travaille et elle tient véritablement... à ce qu'on dise l'hôpital de Calvi.
L'hôpital de Calvi, vous avez raison.
La Légion, on le voit au 14 juillet, les gens attendent impatiemment de voir passer les légionnaires. Il existe un deuxième fantasme à Calvi, c'est un éventuel départ du régiment. Alors, qui induirait pas mal de choses par la suite, hein, parce que la population baisserait considérablement, il faut quand même en être conscient. Alors au profit de alors c'est dans le Gard des fois j'entends parler à...
Alors moi très honnêtement j'en entends pas parler donc je préfère pas donner de lieu qui pourrait porter malheur.
La deuxième chose c'est que on entend aussi la deuxième rumeur, c'est sauvé par les officiers parce qu'ils vont tous faire leurs écoles là-bas et qu'aujourd'hui sur les conflits on n'en voit plus de parachutistes, elle a plus la légitimité d'être là, pas sous cette forme-là. Quel est votre avis là-dessus ?
Alors, je peux en fait tout simplement vous rassurer et vous dire que l'avenir du régiment, de par lui-même, et son avenir en Corse, n'est absolument pas menacé. Voilà, le camp est bien entretenu, il y a de gros investissements qui sont faits. Bon, c'est souvent un signe qui montre qu'on est quand même plutôt là pour durer. L'emploi du régiment ne se dément pas, donc en fait on est toujours très sollicité. L'aspect parachutiste est toujours employé en opération. Donc en fait, ça fait partie de ces capacités sur lesquelles la France ne doit absolument pas renoncer. Et d'ailleurs, on n'a pas l'intention de renoncer. Donc le régiment a toute sa place dans le spectre des missions de l'armée française et toute sa place en Corse. Tout simplement, on a un terrain de jeu, comme je disais au début, qui est extraordinaire. Évidemment, il y a des contraintes quand vous êtes en Corse. Mais la plus grande des contraintes, c'est de vous rendre sur le continent régulièrement. Parce qu'en fait, on a quand même quelques centres d'entraînement incontournables sur le continent, où j'envoie du monde très très souvent. Et je ne vous cache pas, alors pareil, hein, je veux surtout pas créer de polémique, mais je ne vous cache pas qu'actuellement, j'ai quelques difficultés à faire franchir mes camions militaires entre la Corse et le continent. Et c'est sûr que, j'ai envie de dire, vous tous Calvé, vous tous Corse, vous êtes nos meilleurs défenseurs. Et le jour où vous entendrez parler une éventuelle déménagement du régiment, c'est bien sûr vous qu'on se retournera pour dire défendez-nous. Parce qu'en fait, si vous demandez à ce qu'on reste et si vous montrez qu'en fait, on est les bienvenus et qu'on peut s'entraîner ici, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner sur nos chantiers habituels ou même ce qu'on appelle en terrain libre, c'est-à-dire qu'on peut faire des manœuvres, et on y parlera peut-être parce qu'on en a une prochainement.
Exactement.
Tant que ça reste possible et tant que je peux voyager assez facilement entre la Corse et le continent, il n'y a aucune raison que le régiment soit menacé.
Parce qu'il y avait eu un précédent à Fréjus-Saint-Raphaël qui avait déménagé.
Oui, qui avait mais d'ailleurs, après la guerre d'Algérie, quand plusieurs régiments de Légion se sont installés en Corse, vous en aviez à Corté, à Bonifacio. Mmh. On est le seul à être resté, peut-être parce que c'est à Calvi que les relations étaient les meilleures. Et donc on montre que ça prouve que c'est important d'entretenir ces bonnes relations.
Alors, avant d'aborder la toute fin de l'émission, vous vouliez communiquer sur une phase d'opération,
oui.
Donc
voilà,
des manœuvres, donc c'est le 14, c'est
voilà, ça? En fait, lundi prochain, nous commençons un exercice qui s'appellera Libechu. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, mais en tout cas, c'est un joli nom. Donc c'est un exercice qui va se dérouler de lundi à jeudi matin. On va traverser une grande partie de la Balagne. On va commencer du côté de la Balanine, oui, donc on sera du côté de Palasca, Belgodère, et jusqu'à jeudi matin où on va terminer plutôt dans la plaine de Calenzane. Voilà, et donc on va cheminer de village en village. Alors on va traverser certains villages, il y aura quelques actions à proximité ou dans certains villages et plutôt en dehors des villages. Donc voilà, c'est un exercice qu'on fait plutôt 2 à 3 fois par an. Donc c'est un fameux exercice en terrain libre qui peut générer un peu de nuisance sonore, mais également un peu d'attractivité.
Alors, donc, pas d'inquiétude, on sait que le contexte en ce moment est un petit peu... Voilà.
Non, voilà, le but c'est quand même de rassurer. Donc, voilà, ces manœuvres n'ont aucun lien avec la situation en Corse. Voilà, quelque part, on n'a rien à voir avec ce qui se passe. Hein. Je ne fais pas de maintien à l'ordre et je n'ai surtout pas vocation à en faire. Moi, mon seul but, c'est continuer à m'entraîner. Et c'est vrai que pouvoir sortir de mes camps habituels, où je c'est pas que j'étouffe, mais j'ai besoin de m'aérer un peu et de pouvoir me reproduire mes actions sur des terrains à grandeur réelle. Voilà. Et puis souvent, on est d'ailleurs, c'est pas souvent, parce que si je n'étais pas bien accueilli, je ne le ferais pas. Donc on le fait avec évidemment l'autorisation des maires qui nous accueillent bien volontiers dans leur village ou en tout cas sur leur territoire. Et donc on va traverser donc la Balagne du nord vers le sud. Et donc on sera à Belgodère, on va aller. On va également aller du côté de Sant'Antonino, on va aller à Santa Reparat, on va aller du côté de Lumio, les antennes de Salvi, Zilia, Lavatoge.
Donc c'est des exercices qui sont habituels puisqu'ils ont toujours lieu par rapport au contexte actuel. Il n'y a pas de provocation.
Non.
Voilà, il ne faut pas lire. Il faut avoir une grille de lecture qui est assez saine.
Surtout pas. Voilà, il y aura quelques actions donc avec des tirs, mais tout ça c'est à blanc. Mais j'ai envie de dire comme vous avez déjà l'habitude, parce que c'est quelque chose qu'on fait au moins dans ce secteur-là une fois par an, parce que le terrain est tout à fait propice. Et donc non, n'y voyez pas mal intention.
Et la deuxième, c'est bien sûr dans la volonté sur la fin de votre, je sais pas comment on dit, mandat ou
oui, temps de commandement.
Temps de commandement, c'est ce Cameroun, voilà, ce Cameroun le 30 avril. Au sein du régiment, donc où tout le monde est convié.
Tout le monde est convié, donc c'est ce qu'on appelle. Alors nous, on appelle ça la kermesse, mais c'est ce qu'ailleurs on appelle les journées portes ouvertes. Donc en fait, sur deux jours, tout le monde, quoi, je dis vraiment tout le monde, hein, et le bienvenu. Donc on commencera le samedi matin par une cérémonie à 10h, donc une cérémonie qui est présidée par une autorité, donc un général qui viendra de Paris, donc le numéro 2 de l'armée de terre, donc c'est pareil, un ancien qui a servi de lieutenant et capitaine au régiment. Voilà, et qui part bientôt à la retraite, donc pour lui, ce sera un moment fort aussi de sa carrière. Voilà, donc c'est un peu l'ouverture de ces deux journées. Et à l'issue de la prise d'armes, il y a ce qu'on appelle l'ouverture de la kermesse à proprement parler, donc avec des stands où vous pouvez à la fois vous restaurer, mais vous pouvez également, et bon, c'est surtout orienté sur les enfants, évidemment, et avec des jeux pour des parcours de petits commandos.
Je vais au stand du tir.
Exactement, des baptêmes de plongée. En fait, c'est vraiment l'occasion de découvrir le régiment de l'intérieur et ça peut contribuer un peu à démystifier parce que vous découvrez non seulement l'infrastructure, mais également nos matériels, mais et j'ai envie de dire en premier lieu les hommes qui servent.
Les hommes et c'est l'occasion, les voir dans un cadre.
Exactement, et c'est l'occasion de discuter avec eux parce que c'est des moments propices où. J'ai envie de dire, on relâche un peu la pression et on a tous envie de passer un bon moment. Donc ça, ce sera le samedi jusqu'à, pas tard dans la nuit, mais jusqu'à soirée passée, donc dîner inclus. Je crois qu'on va fermer vers peut-être 22h ou 23h, je n'ai plus l'horaire exact en tête. Et on rouvrira le dimanche matin en fin de matinée, donc pour le déjeuner, avec un tirage de tombola en début d'après-midi. Et on fermera vers 18h pour nous donner le temps de ranger, parce qu'après, on reprendra d'autres activités dès le lundi de la semaine.
Le travail reprend le lundi.
Le travail ne s'arrête jamais.
On va conclure sur les alors question flash pour en savoir un peu plus sur vous. Si vous étiez une qualité, à quelle serait-elle?
Alors peut-être la rigueur. J'espère sans rigidité, mais la rigueur. Ouais.
Un défaut?
L'impatience. Je suis très impatient et je peux me mettre en colère.
Alors est-ce que vous avez un personnage réel ou de fiction qui vous suit depuis l'enfance?
Alors oui, j'en ai un. C'est le personnage de Sainte Jeanne d'Arc. Oui, parce que c'est une femme guerrière. Et je trouve qu'elle a d'énormes qualités et a commencé déjà par avoir sauvé notre pays. Et j'ai beaucoup médité son parcours, mais également d'un point de vue guerrier, l'emploi qu'elle a fait des armes. Et en fait, on a beaucoup à apprendre et je me suis vraiment passionné par ses qualités guerrières.
Est-ce que vous avez une passion? Alors, on va pas dire la Légion quand même. On va essayer de trouver autre chose.
Alors, j'ai une passion, alors c'est ma première famille, c'est-à-dire ma famille. Oui, ma femme et mes enfants, et la Légion étant mon autre famille, donc mon autre passion.
Alors, celle-là, elle est intéressante, c'est une phobie, parce qu'on se dit quand même, vraiment, les légionnaires sont censés maîtriser un peu.
Oui, alors c'est une phobie dada, mais c'est vrai que c'est souvent ce que me reproche pour l'épouse, j'ai la phobie des horaires. Oui, d'ailleurs, votre horloge n'est pas à l'heure.
Ah.
Et oui, j'avoue que j'ai la phobie d'être. Je déteste être en retard.
Ah, mais je partage la même. Ouais. Moi, c'est.
Mais c'est une phobie, oui, qui peut devenir une angoisse.
C'est horrible. Moi, j'arrive une heure avant les rendez-vous et je tourne autour du lieu être sûr de ne pas être en retard.
Je partage cette passion du respect des horaires.
Ce que vous détestez le plus chez l'homme?
Ce que je déteste chez l'homme, je pense, c'est l'injustice.
Ouais. La chose dont vous êtes le plus fier?
Fier. Ma famille, parce que je pense que c'est grâce à elle que j'en suis là.
Et un petit péché mignon?
Le chocolat, c'est bientôt Pâques.
Ah, un message est envoyé. Alors, on arrive sur la fin de l'émission. Je profite de mon dernier temps de parole, Nagui, pour féliciter nos jeunes handballeurs calvais, hein, qui sont champions de Corse depuis la semaine dernière. Donc, en fait, ils poursuivent une longue tradition d'excellence à Calvi, puisqu'on est, très bon au handball à Calvi. Il y a le Ladies Open qui commence dimanche prochain, Ladies Open Calvi et Audedille. On félicite le Crabe de Loum, parce qu'on n'est pas que la radio de Calvi, qui est demi-finaliste de la Ligue Sud et Corse en première série. Donc, ils ne se sont même pas déplacés au match retour en quart de finale. C'est-à-dire qu'ils avaient samandrié à considérer que le 48-8 à la maison suffisait pour eux. Le sport calvé et Balanimbri avec le club Taramar et le CSA du deuxième REP. Le jiu-jitsu brésilien qui a ramené 6 médailles de l'Open de France à Marseille. Et rendez-vous donc le 15 juin lors des championnats de France. Donc il y a eu une médaille d'or et plusieurs médailles d'argent. Donc on espère que ceux qui ont cédé en finale vont pouvoir se venger lors du championnat de France. On rappelle rappelle quand même que pour tous ces sportifs, après 2 années de Covid, c'est quand même une prouesse de maintenir un petit peu l'excellence parce qu'ils se sont entretenus et entraînés dans des conditions qui étaient vraiment pas du tout propices à ça. Il y a ce soir au Fogat l'avant-première du film Icomete. Donc, pour ceux qui sont un peu férus de culture et qui veulent voir le beau Jérémy Alberti, eh ben, ils pourront. C'est ce soir, c'est l'avant-première. Et je vous invite, bien sûr, pourquoi ? Parce que je suis partie prenante, avec Anto, à aller sur les réseaux sociaux et sur la page Cinesperenza. Car un film est en attente, qui s'appelle L'île Dorado, où, apparemment, je vais être dedans. Je vais tourner. Donc, je ne suis pas peu fier. Je suis pas peu fier. C'est un western cannelloni. Alors, on avait à l'époque les western spaghetti. C'est les western italiens. Et là, c'est un western cannelloni. Donc, c'est un western qui est tourné sur place. Avec, vous retrouverez des personnages connus de Calvi. Et donc, je vous invite à aller sur... donc, on l'a posté là sur Radio Calvi Citadelle, sur le Facebook de Radio Calvi Citadelle. Il y aura 3 teasers et probablement dans 2 semaines... la bande-annonce de ce film que je considère exceptionnel. Je crois que la cérémonie des Oscars, si Will Smith n'y est pas, parce que moi je ne veux pas risquer de prendre une gifle, va peut-être faire appel à nous. Je brigue le rôle, l'Oscar du meilleur second rôle. Voilà, je l'annonce aujourd'hui à Calvi. Monsieur Tritcher, je vous remercie infiniment d'être venu nous rendre visite. Chers auditeurs, je vous embrasse. N'oubliez pas, le 30 avril, rendez-vous au 2e REP. Pour Cameron. Et d'ici là, passez une belle journée.